Camille Bagnard, la revue de presse internationale, bonjour.
Bonjour.
En Algérie, une peine de prison ferme prononcée à l'encontre de celle que l'on surnomme l'accoucheuse de la démocratie algérienne.
Un an de prison ferme, c'est vrai pour Amira Bouraoui, cette médecin gynécologue qui, comme l'écrit Arab Chi dans le portrait qu'il lui a consacré ce week-end dans Liberté Algérie, est sortie depuis une décennie déjà de l'ombre des cliniques moisies pour passer à la lumière du combat pour les libertés. Amira Bouraoui, 44 ans, a été condamnée donc ce dimanche par un tribunal algérien à passer un an derrière les barreaux pour des messages postés sur Facebook. C'est vrai, lit-on encore dans Liberté Algérie, que l'engagement anti-système réputé incassable de cette militante forte en gueule s'est souvent doublé de propos qui pouvaient dépasser largement ses pensées, pour le dire d'une manière courtoise, contre l'élite politique ou sur la place de la religion en particulier. Des propos qui lui ont valu de solides et nombreuses inimitiés. Pourtant, résume Arab Chi, si l'on veut personnifier l'engagement anti-Bouteflika et pour le combat pour les libertés en Algérie, le premier visage qui s'impose de lui-même, c'est celui d'Amira Bouraoui. Alors forcément, l'avoir condamné à de la prison ferme pour des délits tels qu'offense aux dogmes et aux préceptes de l'islam et offense au président de la République, c'est vraiment, comme l'écrivait l'économiste marocain dès son arrestation mercredi, d'inquiétantes nouvelles qui nous arrivent d'Algérie. Inquiétantes, poursuit le quotidien de Casablanca, car en envoyant en prison Amira Bouraoui, c'est une fois de plus à la révolution inachevée du Irak que s'en prend le système politique et judiciaire. Ces deux derniers mois, alors que les manifestations du vendredi cessaient pour cause de Covid-19, les arrestations et les jugements rapides de figures protestataires et de dignitaires du régime précédents se sont multipliés. C'est d'autant plus cruel, analyse encore l'économiste au Maroc, que le nouveau régime algérien, tenu, soit dit en passant, par des rescapés de l'ancien, se sert du Irak pour en tirer une forme de légitimité populaire, tout en réprimant donc par voie de justice ses principaux meneurs.
D'ailleurs, Camille, vous constatez qu'on parle de plus en plus de procès et de tribunaux dans la presse algérienne.
Et c'est dans son édito d'hier pour El Watan ce que Omar Berbiche qualifie de judiciarisation de la crise algérienne. L'éditorialiste y confirme cette lourde main que la justice abat depuis quelques mois sur les leaders du mouvement de contestation. Il y rappelle aussi que la peur de se faire embastiller n'a jamais constitué un frein à la mobilisation. La peur du coronavirus, pour le moment, est bien plus efficace pour freiner les ardeurs des manifestants algériens, mais cela pourrait changer, prévient Omar Berbiche, si le risque sanitaire perçu devient moins urgent que le risque politique dans l'esprit des Algériens. En attendant, ces derniers sont abreuvés des récits du grand procès politique du moment, celui de l'homme d'affaires Ali Haddad, mais aussi avec lui de deux anciens premiers ministres et neuf ex-ministres algériens. Il s'est ouvert ce dimanche à Alger, ce méga procès de la corruption dans le BTP sous l'ère Bouteflika, comme le résume tout sur l'Algérie. Hier, il pleuvait des milliards sur le tribunal, écrit enfin le journal L'Expression, visiblement choqué par les montants des pots de vin, des contrats clients et des financements illicites de campagne électorale qui sont reprochés à l'ancienne élite algérienne.
Et puis, une question troublante aux États-Unis, et si le renouveau de l'activisme politique passait par les fans de la pop coréenne?
Oui, la question est sérieuse. Elle avait déjà été posée d'ailleurs il y a 10 jours par Seth Cohen dans le magazine Forbes. Il y présentait les fans de K-pop, ces boys bands sud-coréens difficiles de faire plus futiles et plus anodins en apparence, comme de possibles sauveurs de la démocratie américaine. Rien que ça. Pour cause, ces millions de fans hyperactifs sur les réseaux sociaux venaient de réussir en quelques heures à lever $1 million pour soutenir la campagne antiraciste Black Lives Matter, auquel ils apportaient au passage un vent de fraîcheur et une caisse de résonance non négligeable sur les réseaux sociaux. Car ces groupes, qui se surnomment les K-pop stans, connaissent par cœur les secrets des algorithmes qui font que leurs vidéos virales vont être vues par le plus grand nombre. Et donc, depuis quelques semaines, ils semblent se piquer de politique américaine. D'ailleurs, toute la presse des États-Unis parle d'eux depuis samedi soir. Et ce meeting de Donald Trump dans l'Oklahoma, le premier de l'ère Covid, formellement réprouvé par les conseillers santé de la Maison-Blanche, mais maintenu donc par l'équipe de Trump qui assurait, en milieu de semaine dernière, avoir eu 1 million de demandes de préinscription pour assister au show. Mais voilà, samedi, l'arène de 19 000 places était à plus de la moitié vide, 6 200 personnes environ, nous confirme le New York Times. Le président était furieux, il a blâmé la presse et les manifestants antiracistes, mais au fond, il s'est passé une chose, selon The Guardian, l'équipe de campagne de Trump s'est faite rouler par les jeunes internautes fans de K-pop, les revoilà, lesquels affirment s'être passé le mot pour passer un maximum de préinscriptions, bloquer les places dans la salle et empêcher les vrais supporters de Trump de venir au meeting donc de Tulsa dans l'Oklahoma. La conspiration a eu lieu, nous dit-on, sur la plateforme de partage de vidéos TikTok, la plus populaire en ce moment chez les ados. Et depuis, le site ultra-conservateur proche de Donald Trump, Breitbart, ne peut s'empêcher d'y voir un complot ourdi par la Chine, puisque TikTok est une société chinoise. Toujours est-il que ce n'est pas la première fois que cette communauté de fans de K-pop et sa maîtrise d'Internet sont mises à profit pour des causes politiques. Ici même, il y a quelques mois, je vous parlais d'une enquête du South China Morning Post qui nous expliquait que la propagande hostile aux manifestations pro-démocratie à Hong Kong avait été confiée à ces petits génies des réseaux sociaux en Chine. Les communautés de jeunes fans sur le web, qu'on se le dise, sont une arme politique d'un genre nouveau. Quant au meeting de Donald Trump dans l'Oklahoma samedi, bien de toute façon, pour le Washington Post, son principal problème, ce n'était pas les sièges vides dans les gradins, mais le discours désespérément vide d'idées politiques de Donald Trump. Au-delà du régime de l'invective tous azimuts, le président candidat semble incapable, nous dit-on, de formuler des arguments contre le démocrate Joe Biden. Reste à savoir si c'est avec des arguments politiques ou bien avec des armées de trolls sur Internet que se gagne une élection dans le monde actuel.